Et vous écoutez France Culture. La féerie recèle bien d'autres choses en dehors des fées et des elfes, mais aussi des nains, sorcières, trolls, géants et dragons. Elle recèle les mers, le soleil, la lune, le ciel ainsi que la terre et toutes les choses qui s'y trouvent, arbres et oiseaux, eau et pierre, pain et vin, et nous-mêmes, mortels, lorsque nous sommes gagnés par l'enchantement. Tolkien, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui est en train ce soir de cartographier l'univers séculaire et multimédia de la fantasy, et ce à l'occasion de la parution aux éditions Vendémiaire du Dictionnaire de la Fantasy, dont la directrice universitaire Anne Besson et notre invité, évocation également de certaines récentes publications de Patrick Dewdney et Peter Flannery. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, consacré ce soir, comme je viens de vous l'apprendre, à l'univers de la fantasy et grâce à notre invitée Anne Besson. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Besson, vous êtes professeure à l'université d'Artois. Pas d'erreur. Voilà, très bien. Et vous aviez manqué déjà d'être l'invité de Mauvais Genre, d'Asimov à Tolkien, cycle et série en littérature de genre. C'était paru au CNRS et je crois que c'était votre thèse.
Oui, ça ne me rajeunit pas.
Mais écoutez, c'est un livre qui tient en tout cas tout à fait la route. C'est quasiment un classique et déjà à l'époque, on avait songé de vous inviter, mais ça ne s'était pas fait. Donc aujourd'hui, bienvenue à Mauvais Genre. Vous serez en compagnie de Sixtine Audebert.
Bonsoir.
Ça fait bien longtemps qu'on ne vous a écouté.
Et oui.
Ah, parce que vous êtes prise par d'importantes obligations aussi universitaires.
C'est
J'espère avoir une bonne nouvelle annoncée à vos nombreux fans et à nos auditeurs dans quelques temps. En tout cas, ceux qui vous apprécient peuvent vous entendre et vous voir.
En compagnie.
Et dans quoi?
En compagnie de beaucoup de membres finalement de la clique de Mauvais Genre, donc avec Philippe Rouillet et Fausto Fazulo, dans le documentaire de Damien Aimé Dupont sur l'histoire du cinéma fantastique français qui pose justement la question de l'existence ou non d'un fantastique à la française. Et puis il y a une clique plus si affinité, il y a aussi notre ami Stéphane Luménildo et plein d'autres.
Oui, salut.
Et puis des très très bons réalisateurs français comme Lucille au nom imprononçable
Adi Halilovic, qu'on salue aussi, trois fois notre invité pour chacun de ses films.
Voilà, et donc on repostera sans doute sur la page Facebook du groupe les dates de diffusion en festival, je ne sais pas encore ce qui est programmé, voilà.
Ah ben sans doute pour les 25 ans de l'étrange festival, un grand événement que nous attendons avec impatience, monsieur Dionnet.
Oui.
Bonsoir monsieur Dionnet, comment va-t-il?
Bonsoir, eh ben il va bien.
Il va bien, oui, il est en pleine conception, maturation, écriture d'un fort gros livre.
Il est en train de finir la rédaction de ses mémoires et comme il ne s'est jamais collectionné ni collationné, il n'a jamais gardé d'agenda ni même certains livres qu'il a publiés, je fais appel à des bonnes volontés en me traitant comme un animal extérieur.
Donc les mémoires de Jean-Pierre Dionnet apparaître,
je pense, mon éditeur va être furieux, tant pis, il faut bien qu'il le sache un jour, ça sera prêt pour le mois de juin-juillet, quoi qu'il arrive, imprimé en juillet, on pourrait même dire. Voilà.
Voilà, en tout cas, on est très impatients parce qu'il y a quand même près de plus d'un demi-siècle d'histoire de l'imaginaire mondial.
Oui, j'ai commencé tôt, on va dire ça fait 60 ans.
Voilà, 60 ans d'histoire de l'imaginaire, les mémoires de Jean-Pierre Dionnet. Voilà. Préparez-vous, Jean-Luc Rivera.
Bonsoir, François.
Comment va-t-il?
Eh ben, très bien.
Quoi de neuf?
Pas grand chose. Maintenant que j'ai digéré les 15e rencontres de l'imaginaire, je commence à plancher sur les 16e.
Voilà, ben très très bien. On peut signaler quelques événements auxquels vous vous rendrez dans les temps à venir, notamment autour de Jacques Spitz, je pense.
Un colloque Jacques Spitz à Bordeaux au mois de mars. Les Oniriques à mes yeux, auparavant, donc près de Lyon. Et puis, bien entendu, le rendez-vous incontournable des Imaginales au mois de mai.
Vous y serez aux Imaginales,
oui,
Anne Besson?
J'y serai, comme chaque année, dans l'équipe d'animation aux côtés de Jean-Luc.
Voilà, eh bien, écoutez, c'est merveilleux. L'équipe est au grand complet. On peut maintenant procéder à l'ouverture de notre grimoire. L'encyclopédie pratique des mauvais genres.
Je prends un coup du vieux, là.
Dame Céline. Non, c'est le grimoire qui est grimoire, c'est pas vous. Quel est l'invité ce soir?
Eh bien, l'invité de ce soir, c'est Yves Gastou.
J'ai, comme toujours, une très belle bague d'une vanité époustouflante de beauté, puisque c'est un cadavre qui est passé au trancheur de pain. Sublime bague d'artiste. À côté, j'ai une pacotille, c'est-à-dire une bague américaine extraordinaire, avec une de nouveau vanité, donc un squelette de dôme avec des hortensias dans les cheveux, Mexique, la fête des morts, parce que la mort est belle. Et ensuite, un très bel anneau d'artiste anonyme des années 50, avec des vanités, vanité d'homme, vanité de singe, et enfin des splendeurs et des pacotilles. Une bague que vous offrez, ou une bague que vous avez, ou que l'on vous donne, ou que vous achetez, de la passer au doigt, qu'elle glisse parfaitement à votre doigt, qu'elle vous va comme un gant. C'est la chair de poulet, en vous le disant, je l'ai, et c'est une émotion, et c'est la première des choses. Donc quand je vois une bague dans une vitrine, dans une brocante, n'importe où, que je la prends, que je la passe, qu'elle glisse à mon doigt, je ne peux pas résister.
Gastou me reçoit dans la très chic rue Bonaparte à Paris, dans sa galerie spécialisée dans les arts décoratifs. Mais ce n'est pas pour le mobilier ni les sculptures qu'il présente que je souhaite le rencontrer, c'est pour une de ses grandes obsessions, vous l'aurez compris, les bagues d'hommes. Une collection qu'Yves Gastou propose pour la première fois au public dans un livre intitulé « Bagues d'hommes ». On y découvre l'incroyable éclectisme de sa collection, des bagues de gentilshommes érudits du 19e siècle, des chevalières aristocratiques, des bagues épiscopales, mais aussi des bagues de bikers, ethniques, gothiques, des bagues d'artistes, avec une très nette prédilection pour la vanité, sans oublier cette fascinante bague en verre acrylique mêlant vanité et fellation. Surréalisme, érotisme, thème macabre, un bon millier de bagues qui, en fonction de la tonalité de la journée, vient tour à tour orner les mains d'Yves Gastou. Mais il est temps maintenant de savoir d'où vient cette passion d'Yves Gastou pour les bagues d'hommes.
Dès ma tendre enfance, je suis tout le temps d'abord dans l'église Saint-Martin, à Limoux, où nous habitons, et je suis passionné des messes, je suis passionné des tableaux, des sculptures, des processions, surtout avec l'encens, les orgues, les voix et l'évêque, à la fin de la cérémonie, quand il est là, pour les grandes occasions, aller baiser sa main et aller admirer l'extraordinaire bague. J'ai 7 ou 8 ans.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la vue de cette bague qui vous a donné envie de faire cette collection de bagues ?
C'est une évidence. Quand j'avais 25 ou 30 ans, ou 35 ans, un jour ma mère m'attrape et me dit, tu sais, parce qu'évidemment je commençais à avoir des bagues et des bagues et des bagues, et elle me dit, et je me rappelle quand il y avait les processions à Carcassonne ou à Limoux, un jour je t'ai attrapé par le paletot et je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ? Ça fait la 5e ou 6e fois que tu repasses pour aller baiser le gant et la bague de l'évêque. Et ben maman, il a une tellement belle bague. Et c'est une histoire totalement vraie.
Alors qu'est-ce qui vous plaisait dans cette bague de l'évêque ? La couleur, la taille, la forme ?
Alors déjà, bien sûr, la taille, tout ce cérémonial somptueux que je regrette. Et bien sûr, déjà passionné par l'idée d'avoir une bague ou une gourmette, et bien ce monsieur, il avait le droit d'avoir une grosse bague, et une grosse bague qui est quand même plus une bague de femme qu'une bague d'homme. Et ça c'est une passionnata, parce que d'abord il y a le gant blanc pour poser la bague, mais mon rêve était d'avoir des bagues d'évêques, et là, en allant chercher des trésors pour des bijoux de femmes, et ben je leur demande un jour, mais est-ce que je sais que vous êtes le grand fournisseur du clergé et connu dans le monde entier pour les bagues d'évêques, est-ce que vous en avez ? Et ils m'ont ouvert, je suis descendu dans les coffres cette fois, ils ont ouvert le coffre, et ils m'ont montré les bagues et j'en ai acheté. Voilà, donc ça ce sont des bagues des années 50-60. Donc comme on peut le voir, on va se calmer, il n'y a pas de perles, il n'y a pas de diamants comme celle-ci. Elles sont puissantes, elles ont un très beau dessin. Il y a cette cordelière qui est typique de ces périodes, chic, qui est aussi bien dans la décoration. Il y a l'améthyste, qui est ma pierre préférée. Et il y a la croix du Christ. Parce que j'ai une passion et je collectionne les Christs je collectionne les vierges, je collectionne les anges, et je collectionne aussi Saint-Sébastien et Jeanne d'Arc.
Est-ce qu'il vous arrive de porter une bague d'évêque ?
Tout le temps. Les dîners, les soirées, les fêtes la provoquent.
Eh bien voilà, embrasser la bague d'un évêque peut mener à des chemins d'extase et de beauté. Je vous conseille vivement de découvrir la collection d'Yves Gastou. Son livre s'intitule « Bagues d'hommes ». Les photographies sont de Benjamin Chély et les textes de Delphine Antoine et Harold Mollet. Un ouvrage édité conjointement par Albin Michel et l'École des Arts Joaillier. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des bagues d'hommes qui, jusque dans les années 30, étaient plutôt bon chic, bon genre, avant que les voyous, les malfrats, les petites guapes, les bouchers, les camionneurs, les bikers s'en emparent et leur donnent d'autres titres ou d'autres lettres de noblesse.
Embrasser la bague d'un évêque peut mener sur des chemins d'extase et de beauté. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Céline Duchesnay?
Je ne savais pas. Ça change un peu
à ce point avec l'église.
Le climat ambiant.
Vous n'avez pas de bague, Anne Besson?
Non, mais en fantaisie, il y a quand même un certain nombre d'anneaux qui font une petite différence au sein du monde secondaire.
Il y a des épées, des armures, des hommes enchantés, mais il y a également toute une orfèvrerie, une joaillerie.
Le Seigneur des Anneaux.
Le
Seigneur des Anneaux, avec les anneaux des nains, des elfes et des hommes. Et il n'y a qu'une seule femme sur le lot. Donc c'est essentiellement
des bagues d'hommes.
Et est-ce que les fans de fantasy, à l'image des fans steampunk, se couvrent de...
Oui, alors il y a tout ce qui va être l'artisanat type elfique. Donc oui, il y a beaucoup de bijoux là-dedans, d'entrelacs celtiques et puis de diamants un peu brillants qui rappellent les dessins d'Alan Lee pour les films de Peter Jackson.
Vous n'avez pas de bague, Monsieur Dionnet?
Si, je porte une alliance.
Très sobre et très classique.
Ah oui, je voulais quand même dire une chose, parce que j'ai été sur le tournage Seigneur des Anneaux, et j'ai retrouvé un camarade à moi qui avait commencé d'ailleurs dans Metal Island, John O, et qui est en fait l'auteur de la plupart des costumes,
tout
décors et costumes. Ouais. Alan Lee a plus donné son nom.
Et il est plus comme... sur les elfes, voilà. Alan Lee. Alan Lee, c'est vraiment lui qui a donné l'imagerie des elfes. C'est pour ça que je l'ai cité, mais c'est effectivement John O qui est le plus important.
Pour le reste, le storyboard, tous les costumes et tout, c'est John O qui a travaillé pendant 5 ans sans interruption et qui après a pris sa retraite définitive.
Merci Jean-Pierre. Eh bien, l'heure est venue maintenant d'entrer en fantasy. Beached de Mike Cooper en ouverture de la playlist de ce soir, composée par Laurent Polleret, bien évidemment, et totalement dédiée à la fantasy. Notre invitée, je le répète, est Anne Besson pour son dictionnaire de la fantasy qu'elle a dirigé chez Vendémiaire. Anne Besson, vous êtes ce qu'on appelle une AK-fan.
Vraiment, moi je ne me définirais pas comme ça.
D'abord, on va dire ce que c'est qu'une AK-fan.
AK-fan, c'est académique et fan. Donc, c'est des gens qui sont à la fois universitaires et fans d'un sujet.
Un peu quand même,
c'est-à-dire que je participe à des festivals, à des événements grand public, j'estime le milieu et j'en fais partie dans une certaine mesure, mais je suis pas venue à mon sujet par fanitude. Je sais pas si le mot existe.
Allons-y.
Au départ, j'ai choisi ce sujet parce qu'il me semblait que c'était un sujet de recherche intéressant et pas traité. Et moi, mon background culturel n'était pas particulièrement fait exclusivement d'imaginaire et même pas vraiment. J'y suis venue assez tardivement quand j'ai eu épuisé tout le,
le volet naturaliste et réaliste de la bibliothèque municipale. Je suis juste une énorme lectrice, et donc voilà, c'est ça qui m'a amenée à l'imaginaire, son côté foisonnant et inépuisable. Je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose qui pouvait me retenir pour voilà, un temps infini, si ça m'intéressait. Ça n'est que plus tard que je me suis rendu compte que c'était peut-être là le piège aussi, le fait qu'on ne pouvait pas lire absolument tout. Mais donc, j'ai découvert les genres de l'imaginaire en travaillant dessus. Et c'était pas quelque chose. J'étais pas une rôliste, j'étais pas une geek. Voilà. Je le suis devenue en fait au fur et à mesure en découvrant les richesses.
L'occasion crée la larronne.
De tout.
Alors pourquoi la fantasy plutôt que la science-fiction ou le polar, puisque maintenant ce sont des genres qui ont largement pignon sur rue à l'université. Pendant très longtemps, on était un peu considéré comme une sorte de bizarrerie quand on décidait de se vouer à ce type de sujet. Mais là aujourd'hui, maintenant, les choses sont installées. Il y a des séminaires, il y a des éditeurs, enfin, il y a tout. Tout est là pour l'université, pour que les noces entre les gens et l'université se déroulent bien. Alors pourquoi la fantasy ?
Alors au départ, vous l'avez cité, ma thèse porte sur les cycles et séries d'Asimov à Tolkien. Donc en fait, dans ma thèse, il y avait Elroy, il y avait Asimov.
Quoi, tu as Los Angeles.
Ouais, tout à fait. Entre autres, j'avais aussi Jean-Claude Izzo sur les ces polars marseillais. Donc mon travail au départ, c'est sur ces romans à suivre qui dessinent des univers qui se prolongent et qui s'étendent sur différents médias. Et donc à travers les genres, seulement il se trouve que c'est plus intéressant ce sujet-là, celui des univers expansifs, en science-fiction et en fantasy, et particulièrement en fantasy. Il se trouve qu'au moment où je terminais ma thèse, ça a été le phénomène Harry Potter. Hein, on arrive au troisième, il en est en 2001, au troisième tome de Harry Potter, et donc là, ça explose dans les médias. C'est aussi le moment où Peter Jackson commence à sortir ses films qui vont remettre Tolkien sur le devant de la scène. Donc, il y a un effet d'opportunité, clairement. Enfin, c'est-à-dire qu'on me demande de travailler là-dessus. Il se trouve que je suis à peu près la seule à ce moment-là à pouvoir le faire dans le cadre universitaire. Et les choses s'enchaînent puisque notamment pour la fantasy, mon deuxième livre, Les 50 questions sur la fantasy chez Klingsic, beaucoup d'éditeurs voulait une petite synthèse sur la fantasy. Il y avait celle de Jacques Baudou hein, qui est sortie. Baudou a fait les que sais-je sur l'ASF et la fantasy à ce moment-là, hein, tout début des années 2000. Mais tout le monde voulait son ouvrage sur la fantasy parce que personne ne savait vraiment ce que c'était à ce moment-là. La question reste ouverte de savoir si on le sait maintenant, mais du moins on a le mot est désormais dans les têtes et dans les oreilles. À l'époque, c'était même pas le cas.
Alors, pour en savoir toujours un peu plus sur la fantasy, donc ce dictionnaire, Anne Besson, 117 entrées. Ce que je note d'abord, c'est qu'il y a à la fois des entrées de type académique, mais en même temps des points de vue, une espèce de rocade, où on trouve ce qu'on ne trouve d'habitude pas dans un dictionnaire, a fortiori dirigé par universitaires, des poèmes, du slam, des tribunes. Donc il y a à la fois le travail classique, et puis des échappées, comme ça, des lucarnes vers des imaginaires d'écrivains, de créateurs, des témoignages d'écrivaines d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. C'est les points de vue, ce qu'on a appelé comme ça, sont des doubles. Les notices, un certain nombre d'entre elles, c'est-à-dire qu'on va avoir du coup deux entrées, je sais pas, fantasy française ou jeux vidéo, avec une entrée classiquement académique, plus ou moins classiquement académique d'ailleurs, parce que c'est pas que des universitaires qui les ont écrits, c'est beaucoup des érudits du genre, bah comme Jean-Luc Rivera.
Un certain Rivera, bien connu de nos services.
Ou comme les membres de l'association elbakin.net, hein, qui s'occupe du grand site internet sur la fantasy. Et donc, à côté de ces entrées, disons, érudites, j'ai voulu laisser la parole, c'était une idée qu'on partageait avec William Blanc, avec lequel j'ai travaillé, qui est un historien, la parole donc à des créateurs français. Et je trouve qu'effectivement, ça apporte une ouverture et une respiration qui est vraiment bienvenue pour ce type d'ouvrage.
C'est vrai, Monsieur Dionnet, il est de plus en plus nécessaire d'avoir des guides et de faire le tri dans une actualité fantasy qui est devenue totalement pléthorique.
Oui, alors là, on traverse, enfin, c'est vrai de tous les domaines, mais on traverse dans la fantasy une période de grande dangerosité. C'est-à-dire que actuellement, quelqu'un qui voudrait tout lire devrait lire 5 livres par jour. Donc, on a la chance parfois de découvrir des chefs-d'œuvre et le risque énorme de ne jamais lire certains livres. Alors c'est là qu'on a besoin de guides. Parfois, c'est là aussi qu'on ne doit pas s'y fier parfois. Parce que je pense qu'il y a des livres, en les feuilletant aux 10 premières pages, sans que personne vous en ait parlé, on démarre. Mais actuellement, moi, je trouve qu'il y a, je regrette qu'il y ait une multiplication des titres et, en gros, un nombre d'exemplaires vendus globalement qui reste constant. Et c'est vrai de la fantasy, c'est vrai de la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a X millions d'exemplaires vendus et deux fois plus de livres qu'il y a 5 ans.
Anne Besson.
Oui, tout à fait. C'est un constat qui est fait par les états généraux de l'imaginaire, donc un regroupement d'éditeurs et de personnages du milieu de l'imaginaire concernés par ce problème, mais qui effectivement dépasse très largement l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est l'espèce d'hyper-choix. C'est la problématique de l'hyper-choix culturel. C'est-à-dire que désormais, on a accès à beaucoup plus d'ouvrages, de titres de musique, etc. Donc, on ne peut qu'être ravi d'avoir accès à cette pléthore, mais ça veut bien dire que chacun des créateurs et que chacune des œuvres a moins de chances de toucher le public visé. Et donc ça, c'est un appauvrissement.
Jean-Luc Rivera.
Ce qui me frappe en même temps, parce que comme Anne Besson, je fais partie des lecteurs boulimiques, c'est la hausse du niveau de la qualité générale.
C'est vrai.
On avait tendance avant à dire qu'il y avait peut-être un bouquin sur 10 qui était bien. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des traductions de l'anglais principalement, mais aussi des auteurs français qui sont publiés, il y a un accroissement de la qualité depuis quelques années absolument invraisemblable. Donc le nombre de livres effectivement augmente, mais malheureusement, heureusement plutôt, le nombre de très bons livres dedans augmente aussi. Et effectivement, à un moment, ça pose un problème
de lectorat.
Sixtine Audebert.
Oui, et puis en plus de la prolifération des titres, il y a aussi quand même une prolifération des sous-genres. Alors comment est-ce qu'on s'en dépatouille entre justement donc ce qui serait la high et la low fantasy, la sword and sorcery, même l'urban fantasy aujourd'hui, le steampunk, toutes ces choses-là?
Ah là là, quelle question piège.
Alors, on veut savoir.
On est actuellement dans une époque d'hybridation maximale. Alors l'hybridation entre les genres, c'est pas du tout nouveau. Au contraire, aux origines de la fantasy, on avait quelque chose de justement parfaitement confus entre le roman d'aventure, la science-fiction. Tout ça était très mal distinct en fait. Hein, l'horreur à la Lovecraft. Voilà, il y avait beaucoup d'auteurs qui écrivaient dans des genres très différents. Et ce qui se publiait sous le nom de fantasy ou de science-fiction pouvait très bien être autre chose à nos yeux aujourd'hui. Donc il y a des grands cycles de l'hybridation. On a eu un moment avec les pulps et avec, disons, des années 20 aux années 80. Un moment je vise large. Ouais. Un moment où on a un peu distingué mieux les genres, où les genres se sont auto-définis. Et où ils ont cherché à ce qu'on puisse les identifier clairement. Et là, aujourd'hui, on est à nouveau dans un éclatement et un éparpillement complet parce que, justement, ça va avec la multiplication des ouvrages proposés. Ça va avec la montée globale de la qualité, en fait, de la culture des genres de chaque auteur et de chaque lecteur. Comme pour la musique, hein, maintenant, on en entend beaucoup. Et donc, on connaît tout ça. On sait reconnaître les grands genres et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de les mixer. Donc, on est effectivement aujourd'hui dans une ère du mixage.
Jean-Pierre.
Oui, et moi, ce qui me frappe énormément, c'est actuellement également le fait que beaucoup d'auteurs passent du polar à la science-fiction, à la fantasy, ne se cantonnent plus à un genre, mais passent de l'un à l'autre avec un grand plaisir. Alors, il y a maintenant des auteurs qu'on suit au travers des genres, ou qu'on découvre dans un genre et qu'on retrouve après dans un autre.
Oui, tout à fait. Alors j'ai l'image de la carrière de Charlotte Bousquet, qui est une autrice française très
et
prolifique.
Qui intervient nombreuses fois dans le dictionnaire.
Voilà, qui justement est l'autrice d'un poème et d'un slam. Qui sont très agréables. Et alors elle, oui, elle écrit du thriller, elle écrit pour les jeunes, elle écrit pour les adultes, elle écrit de la littérature réaliste, elle a écrit un western, elle revient régulièrement à ses premières amours qui sont la fantasy. Elle a une dystopie toutes les cordes à son arc. Alors c'est aussi lié au fait que, comme ils vendent peu de chaque ouvrage, eh bien, c'est vrai qu'ils publient beaucoup, nos auteurs français.
C'est vrai qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont affectés, je dirais, qui s'affectent eux-mêmes à un genre, et puis ceux qui sont transcourants. Notre maître Serge Brussolot en est un bon exemple, qui est, lui, à peu près tout pratiqué, depuis la fantasy pour enfants, pour adolescentes, jusqu'au récit épique ou récit d'horreur. Là aussi, Jean-Luc Rivera.
En même temps, c'est un peu renoué avec la tradition des grands auteurs populaire de l'entre-deux-guerres, les gens qui écrivaient chez Ferenczi, je pense à Lima parce que c'est l'exemple parfait, il a écrit dans tous les genres et pour tous les médias de l'époque, hein. Il a fait aussi bien du théâtre que du roman, que des scénarios de bande dessinée, il a tout fait. Donc un certain nombre de nos auteurs actuels en fait s'inscrivent dans cette continuité.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors Sixtine a évoqué là la low and high fantasy, on a parlé de la urban fantasy, la dark fantasy, il y a des sous-genres multiples, mais bon, avant des sous-genres, parlons du genre. La définition de la fantasy, puisque ils sont cités dans le dictionnaire, deux spécialistes, deux théoriciens, historiens, parlent de fuzzy set, un cadre flou. Alors malgré tout, comment peut-on la définir, Anne Besson? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on donne une définition qui serait différente de celle qu'ont pu donner nos grands maîtres du passé, les Guamard et autres?
Alors essentiellement, on ne va pas la définir, la fantasy, de la même façon selon qu'on est anglophone et que donc on va lire des critiques anglophones ou selon qu'on est francophone. Donc je vais plutôt vous faire la version francophone, hein, puisque voilà, on est entre nous. Et donc qui est, il faut le savoir, plus étroite que celle des anglophones, pour lequel fantasy, fantastic literature, donc englobe fantastique, ce que nous en français on appelle le fantastique, l'horreur, la fantasy donc, et une partie de la SF aussi, hein, celle qui est la plus proche du roman d'aventure. En français, la fantasy, c'est l'ensemble des œuvres qui présentent un monde secondaire.
Un monde secondaire, c'est-à-dire.
Alors le monde secondaire, il a été, j'emprunte le terme à Tolkien, hein, qui distingue entre monde primaire, le nôtre, et le monde secondaire, celui qui est créé par l'auteur. Donc le monde fictionnel, qu'il s'agisse d'une autre ou d'un monde complètement autonome, qu'ils communiquent entre eux ou pas, est toujours imprégné par une forme de surnaturel spécifique qui est la magie. Et comme la magie tend à remplacer la technologie, puisque quand on a de la magie, ben on n'a pas besoin de construire des machines pour faire les choses, ces univers vont toujours ressembler au passé ou faire ressurgir au sein de nos sociétés, parce que l'urban fantasy se situe dans les grandes villes d'aujourd'hui, vont faire ressurgir quelque chose de mythique, quelque chose de profond, quelque chose d'enraciné qui vient de profondeur de notre passé.
Donc ce qui manquerait à la fantasy par rapport au fantastique, c'est l'effet de terreur déjà, puisque l'apparition du surnaturel, enfin du merveilleux n'y est pas un accroc subi et terrorisant, donc déjà c'est institué, c'est une forme de régularité qui est mise en place, et puis peut-être aussi le lien avec un univers traditionnel, puisque si la technologie est évacuée, on est dans un archaïsme, on est dans un monde peut-être légendaire.
Alors, c'est du merveilleux. La fantaisie, c'est clair, c'est du merveilleux, c'est la catégorie du merveilleux. Et donc, le merveilleux, effectivement, se distingue du fantastique parce que le surnaturel y apparaît comme une norme. Mmh. Et donc, ne fait pas, effectivement, effet de surprise et encore moins effet de choc moins produit l'effroi, que ce soit auprès des personnages dans le monde secondaire ou auprès du lecteur. Il y a des passages qui vont être effrayants parce qu'il y a évidemment une confrontation entre le bien et le mal, et le mal est souvent terrifiant, mais ça n'est pas le surnaturel lui-même qui produit cet effet d'effroi. Et effectivement, le matériau, un des matériaux principaux sur lequel travaille la fantaisie, c'est l'histoire. C'est l'histoire et donc c'est le passé. Après, ça peut être des visions de l'histoire qui ne sont pas forcément archaïques. On peut voir dans la fantaisie, on peut voir à l'œuvre des regards sur l'histoire qui sont des regards assez nouveaux. Notamment l'évolution de la place des femmes dans la fantaisie et reflète très clairement l'évolution de la perception culturelle et sociale de la place des femmes jusque dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fantaisie va réécrire l'histoire des femmes du passé. Parce que notre regard contemporain, y compris celui des historiens, a assimilé cette notion du gender et ce besoin de revoir le passé qu'on pense connaître au prisme de nos préoccupations sociales actuelles.
Jean-Luc Rivera.
Oui, Anne Besson, là je suis tout à fait d'accord, l'évolution du rôle de la femme. Aujourd'hui, on a quelque chose, par exemple, très couramment, qui était impensable il y a même 20 ans en arrière. On a des armées dans les romans de fantasy, dans lesquelles les soldats sont aussi bien des hommes que des femmes. C'est incroyable. Et il y a même des femmes qui sont générales. Enfin, tout ça est invraisemblable.
Et même dans Star Wars.
Et voilà. Et mais il y a aussi la place aussi des gens dans la société. On trouve de plus en plus dans la fantaisie des modèles d'ascenseur social à travers la chevalerie. Le petit bouseux du coin peut devenir un proche chevalier, etc. On trouve donc effectivement tout ce regard contemporain, la fantaisie aujourd'hui, me semble-t-il, reflète l'évolution de notre société.
Et également de perte de standing. Un roi peut se retrouver mendiant.
Game of Thrones,
sur
la perte de standing,
un peu à notre
est quand même là pour nous prouver que la vie est faite d'aléas. Le mot est faible. Oui, effectivement, ce qui est important, mais c'est aussi la question de la politique de la fantasy. Parce que traditionnellement, on disait que la science-fiction était plutôt tournée vers le progrès, entre guillemets, vers un progrès de gauche, vers l'avenir, avec toute la capacité de transformation, d'innovation, de mutation. Et qu'au contraire, le fantastique et la fantasy, puisque s'appuyant sur le retour du refoulé, on connaît ça en fantastique, ou la fantasy faisant l'apologie de sociétés traditionnelles, hiérarchiques, voire de sociétés de caste, où les rangs et les places étaient immuables, étaient plutôt confrontés à des modèles politiques réactionnaires. Alors est-ce que vous pensez que là aussi il y a une évolution ?
Oui, bien entendu. Alors c'est une question qui est loin d'être réglée, et puis c'est une question qui est vraiment compliquée parce que elle mêle. Alors je renvoie aux très bonnes notices de William Blanc sur la question, et il prépare a priori un ouvrage sur politique et fantasy. Donc il faut distinguer le modèle politique interne à l'œuvre, donc justement ces sociétés de type féodal, et la manière dont les publics vont s'approprier ces modèles-là, les lectures qui peuvent être faites d'une même œuvre, qui peuvent être radicalement différentes. Tolkien en donnant un très bon exemple, puisque Tolkien a à la fois fait l'objet de lectures fascistes, des groupes d'extrême droite italiens, et régulièrement est accusé de racisme. Et en même temps, on sait bien qu'il doit sa gloire aux hippies de la contre-culture américaine, au campus de la fin des années 60 aux États-Unis, et que là, il a été lu comme un pacifiste, comme un pré-écologiste, un antimilitariste. L'herbe à pipe des hobbits a été interprétée comme un des avatars des drogues ouvrant les portes de la perception. Donc voilà une même œuvre qui émane d'un oxonien, d'un universitaire plutôt traditionnel et catholique, qui a fait l'objet d'appropriations politiques radicalement différentes. Donc ça, c'est une des dimensions vraiment importantes de la question, puisque Pour prendre un autre exemple, le personnage de Red Sonja, ou Sonia, donc qui est voilà un personnage à la fois typique d'une ancienne image de la femme en fantasy, puisque c'est elle qui est très connue pour son espèce de slip en côte de maille, enfin son bikini de côte de maille, voilà, avec lequel elle est régulièrement représentée dans les comics Marvel, donc qui évolue hein, aux côtés de Conan le cimérien. Red Sonia a fait l'objet des premiers cosplays féminins. Notamment Wendy Pinney qui ensuite hein, est devenue une grande artiste créatrice de bande dessinée de fantasy est apparue déguisée en Red Sonja et donc il y a eu une appropriation par une affirmation du corps féminin de ce personnage qui était au départ complètement conçu pour être un fantasme sur pattes.
Je voulais juste dire, on parlait de costumes, c'est très très important, c'est que la plupart des costumes de fantasy, il n'y a que Lovecraft qui s'en est plaint parce qu'il trouvait ses dessins hideux, vont être créés dans Weretales, que ce soit Howard, Red Sonja, que ce soit Conan, que ce soit d'autres héros, par Margaret Brundage, femme libérée, bisexuelle, et qui donc met en valeur le corps féminin et crée les costumes. Parce que les costumes sont un peu décrits dans les romans, mais Margaret Brundage va devenir le canon des costumes. Alors vous me direz qu'elle ne met pas grand-chose sur le dos de Conan. Ben, c'est que Conan ne l'intéresse pas trop. Mais Howard sera content. Par contre, Lovecraft, quand il verra une femme à moitié déshabillée à propos d'une de ses nouvelles, écrira en disant « plus jamais ça ». Et ça continuera.
Anne Besson, il y a énormément d'articles à la fois sur l'univers matériel, culturel de la fantasy, les dragons, les nains, les fées, les épées, les armures. Donc toute là, je dirais, le magasin est au complet dans votre dictionnaire paru chez Vendémiaire. Il y a également beaucoup de choses sur les fans. On apprend qui est qui, un peu comment s'est organisé le fandom des amateurs de fantasy. Et puis sur la critique. Et là, il y a quand même quelque chose qui m'a semblé étrange. On parle de la légitimité. C'est une littérature qui a eu du temps à acquérir sa légitimité. Les choses ne sont pas faites, évidemment. Mais alors, je me pose la question, c'est que elle a été portée sur les fonts baptismaux, si j'ose dire, par messieurs Tolkien et C.S. Lewis, qui étaient deux éminentissimes professeurs d'Oxford, personnages reconnus dans leur milieu. C'est quand même une forme de légitimité de départ extrêmement forte. Imaginez que Brodel et Duby fassent des romans historiques, on ne parlerait pas de légitimité de leur personnage. Alors là, comment il y a une espèce de distorsion entre, je dirais, le statut social des grands auteurs de fantasy et puis la réception des œuvres.
Oui, en fait, il y a une double origine de la fantasy, cette origine anglaise hein, dont vous venez de parler à Oxford avec Tolkien et Lewis. Alors, dont déjà l'œuvre merveilleuse n'est pas forcément parfaitement reçue par leur père. Hein, à côté, elle est quand même à côté pour Tolkien de son travail principal. Et puis pour Lewis, c'est un peu différent, mais sa fantasy pour enfants entre dans le cadre de son apologétique hein, et vient plutôt à la fin de sa carrière, quand il est déjà une énorme star, notamment grâce à ses émissions de radio pendant la guerre. Donc, une naissance anglaise qui effectivement est prestigieuse et puis voilà va concerner des auteurs. Il y a Lord Dunsany aussi hein, qui est alors lui un père du royaume, un aristocrate, un chasseur, enfin voilà, avec toutes les tout ce qu'on peut imaginer autour de ce fantasme de l'aristocrate anglais. Et de l'autre côté, on a une naissance américaine quasiment simultané, hein, puisque c'est dans les années 30 aussi qu'écrit Robert Howard, qui, elle, est une naissance beaucoup plus pop, hein, beaucoup plus pulp et beaucoup plus underground. Et c'est plutôt celle-là. Enfin, c'est un mélange des deux, hein, pour être plus exact, mais c'est la manière dont les Américains ont reçu les grands Anglais, qui va créer la fantasy telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est les premières collections vont être créées par Lynn Carter dans la foulée de l'énorme succès,
fort précisément, là,
tout à fait, l'énorme succès du Seigneur des Anneaux lors de sa réédition en poche en 1965 va entraîner une réédition général par Lynn Carter dans une collection très fameuse, la collection Ballantine Adult Fantasy, de tous les grands anciens de la fantasy, et dont Anatole France, hein, assez curieusement, il y a un ouvrage d'Anatole France qui paraît dans cette première collection. Et la fantasy telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin, disons ce dont elle hérite à partir des années 80 quand elle nous revient en France, c'est Donjons et Dragons, le jeu de rôle, c'est les adaptations de Conan, qui, il faut bien le dire, ne sont plus au niveau de ce qu'avait écrit Howard, hein, qui a écrit des nouvelles assez éparpillées, qui ont ensuite fait l'objet d'une réécriture massive, hein, par c'est ceux qui s'en sont instaurés les héritiers, donc Lynn Carter et Lion Sprague de Caen. Donc ce qui est devenu Conan, donc cette espèce de super-héros bodybuildé qui se ferait un chemin à la pointe de l'épée. Et puis ce qu'il est devenu dans les films, avec Arnold Schwarzenegger et sa grosse épée. Et donc c'est ça qui revient en France, et donc dans les années 80, c'est vrai que la fantasy pâtit d'une image de qualité assez piètre.
Jean-Pierre Jeunet.
Non, il s'est passé, enfin moi j'appelle ça un petit révisionnisme auquel beaucoup participent, il s'est passé quelque chose d'étrange dans les années, autour de Conan le Barbare d'ailleurs. C'est qu'en vérité, ce qui a totalement relancé la fantasy populaire avant les Ballantines, avant Avon, avant Conan, ce sont les S-Books de Edgar Rice Burroughs, de John Carter, qui on peut le dire est de la fantasy, illustrés pour la première fois par Roy Crankel et Frazetta, qui vont être un énorme succès, qui vont provoquer le départ du directeur de collection, qui va aller faire les Conan chez Ballantine. Mais au départ, c'est Burroughs, l'auteur de Tarzan, qui va relancer le genre.
Anne Besson.
Oui, tout à fait. Alors Burroughs n'est pas identifié comme un auteur de fantasy, mais vous avez tout à fait raison qu'il a une place absolument primordiale et qu'on pourrait tout à fait le reclasser en fantasy.
Alors la fantasy est évidemment identifiée en permanence à la magie, au surnaturel, au grand pouvoir du merveilleux, mais on parle de mutation du genre, on parle de transformation au contact des différentes cultures nationales et différents pays. Et là, il est en train de se passer quelque chose en France d'intéressant. C'est la survenue de l'heptalogie. Le cycle fera 7 volumes de Patrick K. Dudeney aux éditions Au Diable Vauvert. Les deux premiers sont parus. Le premier, c'est le cycle de Sif, La Peste et la Vigne. Et l'originalité de Dudeney, c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est qu'il se veut un auteur de fantasy matérialiste. On l'écoute.
Je le revendique pleinement, effectivement, j'ai une lecture très matérialiste du monde et moi je suis quelqu'un qui vient à la fois de la faculté de lettres, en gros, c'est toujours un peu étrange de résumer son cursus à quelque chose, mais j'ai lu beaucoup de sciences humaines notamment, en fait, c'est là-bas que j'ai vraiment...
Vous êtes plus Dumézil que Tolkien en définitive.
Je pense que les deux sont importants et du coup, ouais, quand j'ai commencé à concevoir mon monde, il est né très rapidement déjà. Mais au fur et à mesure, il s'est étoffé. En fait, je l'ai vraiment laissé mûrir comme une sorte de processus organique, quoi. Mais les bases, en tout cas, sont apparues très rapidement avec effectivement une carte. Peut-être une envie aussi de poser une ambiance un peu moins moyenâgeuse, moins médiévalisante que certains livres du genre. Là, on est plus dans une sorte de haut moyenâge fantasmé, avec par-ci par-là des influences antiques ou celtisantes, et des choses dont peut-être on a moins l'habitude dans le genre, qui s'inspire davantage de l'Orient ou des pays de l'Est, par exemple.
Alors, parlons des cartes. Les cartes nous permettent de découvrir le lieu. Il y a essentiellement des villes-états, des territoires de sauvagerie, des ports, des voies d'accès. Il y a déjà, vous commencez par créer toute une topographie assez traditionnelle, puisqu'on est dans un monde qui, effectivement, on est au-delà du Moyen-Âge. On est dans un monde archaïque, et on est dans un monde, une sorte d'antiquité qui mordrait un petit peu sur le Moyen-Âge. Et là, vous définissez un petit peu des outils, puisque ces lieux naturels, ces villes, tout ça, ces routes vont vous permettre après de jouer votre histoire.
Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose de, comment dire, en gros, un contexte politiquement défini pour pouvoir articuler son histoire autour. Moi, c'est ce dont j'ai toujours parlé dans mes livres, c'est on va dire que les pudiques ont appelé ça de la littérature sociale. Moi, je revendique assez pleinement l'identité d'écrire de l'écriture politique. Je pense que c'est important d'avoir un contexte clair autour duquel on peut articuler son personnage ou ses personnages, et qui l'idée que le monde travaille le personnage, forge le personnage et crée aussi l'histoire. Notamment dans les rapports de force qui peuvent exister, le fameux élément perturbateur, etc. Pour moi, tout ça vient généralement du contexte davantage que l'intérieur des personnages.
Voilà, Patrick Dudenay, enregistré au récent Festival de Nantes et auteur donc des deux premiers volumes du cycle de Sif, L'Enfant de Poussière, La Peste et la Vigne. Alors, une fantaisie matérialiste, Anne Besson, ça vous semble jouable?
Oui, tout à fait, c'est pas impossible. Hein, les mondes secondaires, là, on a clairement monde secondaire, on a clairement passé. On a réflexion sur la manière dont un monde va pouvoir évoluer, dont un héros va pouvoir évoluer au sein d'un monde. Donc on est proche, on peut appeler ça de la fantasy.
Et il y a un peu de magie, même si c'est de la basse magie. Et il y a un élu.
Ben voilà.
On le sait déjà.
Il y a un article élu d'ailleurs dans le
livre. Sylph n'est peut-être pas le petit vagabond orphelin d'une race disparue. Je pense qu'on le saura vers le volume 7. Prévus.
On va être étonné.
Le volume 7, Jean-Luc Rivera.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec Anne Besson. Chez Dudenay, par exemple, bon, il y a pour l'instant pas de magie. Donc de la fantaisie matérialiste, pourquoi pas. On avait eu Justine Niogré avec Chien du Homme, où il n'y avait pas un atome de magie. Et ça fonctionne très bien dans tous les cas.
Jaborski, Roi du Monde.
Ouais, Jaborski avec Roi du Monde, aussi, où on est à la limite, ouais, etc. Bon, mais c'est vrai que, en tant qu'amateur de fantasy, j'aime bien de temps en temps qu'il y ait un sorcier, voir le bout de la queue d'un dragon, etc.
Très bien, ben on a transmis à l'auteur. Donc avant de donner la parole à Sixtine, quelques préconisations, messieurs. Monsieur Dionnet, préconisations.
Nous allons aller infiniment vite, parce que la source du Au bout du monde, William Morris.
Alors, William Morris, un des classiques.
Qui est un des textes fondateurs de la fantasy, édité aux Forges de Vulcain, et qu'il faut commander, parce qu'il est très mal distribué, a été préfacé, je crois, ne serait-ce pas par vous, Anne Besson?
Ouais, si. Alors, William Morris, je conseille vraiment cette lecture, et je salue l'initiative des forges de Vulcain.
Très bon éditeur.
Mais aussi de Calidor, par exemple, hein.
Calidor,
tous ces éditeurs.
Autre remarquable.
Voilà, qui font le travail de faire redécouvrir, de faire traduire pour la première fois, les classiques de la fantasy qui, pour l'instant, étaient restés inaccessibles au public français.
Calidor et les forges de Vulcain.
Vous avez dit dans votre livre, ça m'a fasciné, ce texte paru en 1886, traduit en 2018.
Tout à fait.
Ce qui est extraordinaire. Alors, obligatoire pour les amateurs de fantasy, de bande dessinée, de fées, de trolls et tout ce qu'on veut, enfin, l'elféméride complet, le grand légendaire des saisons, de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson. Alors, tous les amateurs de Spirou connaissent Haussmann, son petit monde, Laina, son héroïque fantasy, ses petites histoires animalières. Dubois, il est elficologue. Il a fait l'objet d'une voix nue, je crois, de Céline Deschenais et Laurent Polleret. Il sait tout sur le monde elfique. Et grâce à cette elféméride parue chez Hoébec, vous savez tout. Ce qu'on doit manger, ce qu'on doit craindre, où dormir, et quels sont les faits qui vous sont favorables et celles qu'il faut définitivement éviter dans le petit peuple.
On termine avec Tolkien.
Et enfin, Alors, d'un auteur que je recommande, qui s'appelle Alexandre Sargos, que je suis, car il a fait un très joli livre sur la mafia japonaise, les Yakuza, et ensuite un
autre bouquin, monde du merveilleux.
Un bouquin d'entretien sidérant avec Pierre Bordage, au Diable Vauvert, qui s'appelle Entretien avec Pierre Bordage, où Pierre Bordage nous raconte sa jeunesse, qui apparemment a été l'enfer. Et là, il fait un livre sur les 20 premières années de la vie de Tolkien, en disant qu'en gros, c'est sa jeunesse, et c'est la guerre qui explique la suite de sa carrière. Alors là, je viens de le commencer, mais comme l'auteur m'a ravi jusqu'à présent, je pars du principe, comme avec Bordage et Yakuza, que ça sera formidable.
Jean-Luc Rivera, alors, maintenant, pour une préconisation.
Alors, une préconisation, pour moi, c'est celle de Peter A. Flannery, Mage de bataille, qui est un parfait exemple de tout ce dont on a parlé en fantasy. C'est sorti dans la nouvelle collection imaginaire d'Albin Michel, dirigée par Dumay.
C'est un diptyque. Gilles Dumay.
Par Gilles Dumay, pardon. C'est un diptyque qui réunit tout ce qui fait de la bonne fantasy une vraie lecture plaisir. Le jeune homme qui se découvre, qui grandit, qui vainc ses peurs, les amitiés avec d'autres, l'apprentissage à la dure, le sens de l'honneur, le don de soi. Il y a des dragons, des magiciens, des guerriers valeureux, des ambitieux totalement répugnants. Il y a le mal incarné avec ses armées de morts-vivants. Donc tout y est, plus un soin attentif qui est porté à la psychologie des personnages, sans parler d'un traitement extrêmement original du rôle de la peur. Ça, c'est absolument magnifique. Et c'est ce qui fait l'un des grands intérêts, à mon avis, de ce livre. Une écriture agréable qui est bien rendue par la traduction de Patrice Lunet. Bref, un nouvel auteur à ne pas manquer, Mage de bataille de Peter Flannery.
Et une collection à surveiller, donc, Albin Michel Imaginaire, dirigé par Gilles Dumay. C'est vrai qu'Anne Besson, les règles, un peu les codes, les cadres de la fantasy, si on n'est pas un véritable grand artiste, peuvent se révéler insupportablement pesants.
Alors, si on n'est pas un grand amateur aussi, j'ai envie de dire, parce que nous, on aime les cadres de la fantasy. On apprécie de retrouver un certain nombre de codes qui peuvent apparaître comme des
joie
conventions.
Joie du code et plaisir de la règle.
Tout à fait.
Et puis il y a des
Monsieur Jean-Pierre.
Excusez-moi, mais je crois qu'il y a des jokers. Attends, ma génération des années 80, il y avait un auteur qu'on pouvait faire lire à tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas la fantasy ou la science-fiction, c'était Zelazny. Parce que les gens disaient mais c'est des vrais romans et c'est vraiment bien écrit. Et Zelazny, les Princes d'Ombre, tout ça, eh bien, on arrivait à faire lire pas seulement à Bilal, mais à plein d'auteurs qui disaient « Ah, tu m'avais pas dit que c'était des bons livres, je croyais que c'était juste un truc de sorcier et de magicien, mais c'est hyper bien !»
Et puis la fantaisie est forte pour la parodie aussi, pour l'autoparodie. Il y en a énormément. Ah, voilà, on sait se moquer de nos conventions.
Fritz Leiber, le cycle des épées.
Ah, c'est une des plus grandes choses qui ait jamais existé.
On termine cette émission avec vous, Sixtine Audebert, et un ouvrage qui a quand même fait parler de lui, donc chez Cambourakis, de Yann Larue, Libère-toi, cyborg.
Oui, on bascule vers l'espace psychotropique et testostéroné de la science-fiction des années 70-80 pour parler donc de cet ouvrage Libère-toi, cyborg, le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe, car le sous-titre est important, de Yann Larue, et qui est paru donc chez Cambourakis. Et donc, dans votre dictionnaire de la fantaisie, Anne Besson, à la rubrique femme, vous citez le créateur de Buffy qui, interrogé sur le pourquoi des personnages féminins comme protagonistes dans ces fictions, répond tout naturellement « parce que vous me posez encore la question ». Et bien justement, c'est cette part marginale de la SF qui prend pour héros des personnages non seulement féminins mais aussi trans, voire gender fluid et etc, puisqu'il y en a plein, que Yann Larue indique à ses lecteurs et ses lectrices afin qu'ils se posent à leur tour de bonnes questions. Et comme point de départ pour cette réflexion, elle prend la liste H, c'est-à-dire ce qu'elle appelle la liste H, c'est-à-dire les quelques 35 romans de SF indiqués par la professeure philosophe chercheuse Donna Haraway à la fin de son manifeste cyborg. Alors le manifeste cyborg, il faut faire effectivement un petit point d'éclaircissement, c'est le texte le plus célèbre de Donna Haraway, et c'est une sorte d'essai hybride à l'image de son titre, puisque manifeste, c'est-à-dire profondément politique, et cyborg, c'est-à-dire à la fois imaginaire, hétéroclite, mutant. Et de fait, s'il faut un peu caricaturer, il y aurait une première partie qui serait une partie théorique du manifeste, à laquelle s'adjoindrait une base littéraire, cette fameuse liste de romans féministes, et que personne ne prend jamais au sérieux. Et c'est ce qu'appelle l'affaire Anne Larue. Donc qu'est-ce que serait un roman féministe, un roman de SF féministe? Citons-en quelques auteurs, quelques autrices, qui sont citées donc par Haraway et par Yann Larue. Le roman de Joanna Russ, avec notamment les romans de Joanna Russ, avec notamment The Female Man, les romans de Von Daniel McIntyre, un peu compliqué à prononcer, de James Tiptree, qui est plus connu sous ce nom, mais dont le véritable nom est Alice Sheldon, et quelques romans d'auteurs d'Elany ou Varley, et surtout, Octavia Butler, que Haraway aime particulièrement. Et on pourrait prendre, donc, pour exemple, un roman d'Octavia Butler, Dawn, pour comprendre ce que peut être une relecture engagée des grandes mythologies de la SF. Alors d'habitude, le héros, c'est plutôt le mec viril qui triomphe de la machine dans une grande explosion militarisée, avec un scénario typique Terminator ou Aerobot, etc. Et dans Dawn, eh bien non, c'est une femme noire, une femme qui s'appelle Lily Silapo, ah tiens, qui s'unit avec des extraterrestres et qui vont trifouiller dans son génome, par-delà bien et mal, et elle les trouve au début répugnants, et puis elle finit par générer une nouvelle humanité avec ces extraterrestres, puisque l'humanité avait disparu après une forme d'apocalypse. Et donc il y a évidemment deux lectures, et il y a notamment une lecture queer, c'est-à-dire une lecture active, une lecture créative, qui s'abstrait du réel historique, et qui fait de l'imaginaire une arme, une puissance contre la norme, donc la norme qui serait ce discours que tout le monde accepte comme le réel, mais que la lecture queer propose de dépasser. Et cette lecture voit un moyen ici de dépasser les couples justement antithétiques, les couples tout court, en hybridant l'humain, l'extraterrestre, la technologie, et plus loin l'animal. Et donc la mythologie cyborg ferait exploser les catégories et reconfigurerait ce que Donna Haraway appelle ces fusions taboues, les possibles, en l'occurrence les possibles de la femme. Et donc ce livre de Yann Larue invite à partir de nos lectures à hacker justement le réel et à rentrer donc dans la pleine possession de cet imaginaire et de ces matériaux.
Réaction, Anne Besson.
Oui, je suis tout à fait impressionnée par cette lecture de Diane Larue, dont je connais par ailleurs le talent. Hein. C'est une collègue universitaire de Paris 13 qui a aussi écrit un bouquin sur le féminisme de fantasy chez Classique Garnier. Alors le titre avait pas grand rapport, hein. Et effectivement, là, ça touche, pour ce qui me concerne, à tout ce qui est écoféminisme et à des autrices de fantasy. Et de SF comme Atwood ou Ursula Le Guin ou des autrices racisées comme Neddy Orokafor ou Nissi Scholl, etc., qui, elles aussi, réinventent le genre.
Merci Anne Besson. Jean-Luc Rivera, 10 secondes.
10 secondes, je voulais simplement dire que moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans le livre d'Anne Larue, en tant qu'homme, c'est qu'elle me confronte à... Elle m'a forcé à me poser un certain nombre de questions que, j'avoue, je ne m'étais jamais posées. Et deuxièmement, Anne Larue réussit l'exploit d'écrire en écriture inclusive et c'est lisible.
Ah oui. Merci Jean-Luc. Merci Anne Besson d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre.
Merci.
Je signale donc bien évidemment votre dictionnaire. Le dictionnaire de la fantasy aux éditions Vendémiaire. Patrick Dieudonné, le cycle de Sif, 2 volumes parus, c'est aux éditions Le Diable Vauvert. Libère-toi cyborg de Yann Larue, c'est chez Cambourakis. Peter A. Flannery, Mage de bataille, chez Albin Michel. J.R. Tolkien, Prélude au Seigneur des Anneaux, c'est chez Au Diable au Vauvert également. Et puis Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson, L'Elfe Émérite, c'est chez Ebuck. Et William Morris, un classique, La Source au bout du monde, c'est aux éditions Les Forges de Vulcain. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Eric Boisset, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Sixtine Audebert, Jean-Pierre Dionnet, Jean-Luc Rivera et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi, on sera avec Pacôme Thielmann et Delphine de Thon. On parlera de ciné, d'Antonin Artaud et d'Alfred Jarry. Et d'ici là, bonne nuit à tous.